Le journal Sarah Guibaudou. Bonjour Sarah.
Bonjour. Carla Del Ponte veut dénoncer haut et fort l'inaction du Conseil de sécurité sur la Syrie. La magistrate démissionne de la commission d'enquête de l'ONU. 10 ans après la crise financière, les leçons ont-elles été tirées? Sommes-nous à l'abri d'un nouveau krach? Pas sûr, nous expliquera Maxime Debs. On en parle aussi avec votre invité, Pierre.
Oui, toutes ces questions, on les posera à Paul Jorion, anthropologue, sociologue. Il avait publié avant la crise un livre annonçant que cette crise était imminente. En 2007, c'était vers la crise du capitalisme américain aux éditions de La Découverte. Bien sûr, vous pourrez interroger Paul Jorion dans Interactive à 9h-20. Le standard, c'est le 01 45 24 7000 et il est déjà en service.
À l'heure de l'interdiction des emplois familiaux, le statut annoncé de la première dame Brigitte Macron fait polémique. Retour sur l'agression mortelle il y a un an à Aubervilliers et le sentiment d'insécurité toujours fort dans la communauté chinoise. Le Venezuela en proie à la dérive autoritaire du président Maduro. Gros plan sur le rôle de Cuba dans cette crise. Dans ce journal, on encouragera la lanceuse de marteau Alexandra Tavernier, l'un des espoirs français de médaille à Londres. Mais attention, c'est aussi dans la tête. Et puis on s'arrêtera sur le tube de l'été Despacito qui relance le tourisme à Porto Rico.
France Inter.
Je suis frustrée, j'abandonne. C'est avec son franc-parler habituel que Carla Del Ponte a annoncé hier dans la presse suisse qu'elle allait démissionner de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie. L'ancienne procureure, d'abord spécialisée dans les enquêtes financières et contre la mafia, est devenue une magistrate internationale, spécialiste des crimes de guerre. C'est grâce à elle que l'ancien dictateur serbe Slobodan Milosevic a été jugé avant de mourir en détention. Mais sur la Syrie, Carla Del Ponte estime que son travail est voué à l'échec, Guillaume Fariol.
Carla Del Ponte ne mâche pas ses mots. « Je ne peux plus être dans cette commission qui ne fait absolument rien », dit-elle. La magistrate se sent impuissante et ce, malgré son aura. Elle est reconnue mondialement pour sa lutte contre les crimes de guerre en ex-Yougoslavie ou encore au Rwanda. Mais peu importe ses faits d'armes passés, l'ancienne procureure résume aujourd'hui son rôle à celui d'un alibi. Depuis 5 ans, Carla Del Ponte et la commission d'enquête alertent sur la situation en Syrie. Sans effet, impossible par exemple de saisir la Cour pénale internationale, la Russie oppose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand la commission demande à se rendre sur le terrain, c'est le gouvernement syrien qui refuse. Alors, Carla Del Ponte claque la porte, mais continue toujours d'alerter. Elle l'assure, des crimes comme ceux commis en Syrie, elle n'en a jamais vu au cours de sa longue carrière.
Dans un communiqué, la commission d'enquête sur la Syrie estime que le travail doit se poursuivre, je cite, « au nom des innombrables Syriens qui sont victimes des pires violations des droits de l'homme et crimes internationaux que l'humanité connaît ». C'était il y a 10 ans, à l'été 2007, les bourses chutent. Le 9 août, BNP Paribas gèle 3 fonds contenant des crédits subprime. Ces crédits immobiliers accordés à des Américains pourtant peu solvables. La planète finance comprend qu'elle ne peut plus stopper l'onde de choc. Le 15 septembre, la banque Lehman Brothers est en faillite. 10 ans plus tard, après les sommets d'urgence et les plans de sauvetage des banques, les effets de la crise se font toujours sentir. Le chômage reste très fort, mais les marchés financiers sont de nouveau euphoriques et certains se demandent s'ils ne risquent pas de retomber dans les excès d'hier, Maxime Debs, les excès de la titrisation notamment.
Dans son mécanisme, la titrisation fonctionne ainsi. Une banque prête de l'argent à plusieurs clients et sans attendre propose ce même argent à une société à la recherche de liquidités sans se soucier que cet argent soit un jour remboursé. C'est ce mode de fonctionnement qui a provoqué l'effet contagion des subprimes en 2007 et ce vers quoi les banques semblent revenir sur la pointe des pieds. Selon le cabinet Deloitte, 36 milliards d'euros l'an dernier ont ainsi été réinjectés de la sorte dans l'économie en Europe via ce type de montage hasardeux mais moins risqué qu'avant, à entendre Augustin Landier, professeur d'économie à Toulouse.
On peut quand même dire qu'il y a eu des progrès à la fois en termes de transparence et puis il y a moins de naïveté de la part des investisseurs. Qui potentiellement peut rendre ces produits très déstabilisateurs, c'est lorsque les gens qui les achètent, les gens qui gardent, comme les banques, une exposition à ces produits, ne sont pas conscients du véritable risque qu'ils courent. Donc là-dessus, il y a moins de naïveté qu'avant, c'est sûr.
Moins de naïveté, mais pas seulement. Les sommes évoquées aujourd'hui, 36 milliards, n'ont pour cet économiste rien à voir avec celles de l'époque, 10 à 20 fois supérieures. Seuls quelques pays ont réellement recours à cette pratique, selon Deloitte, l'Irlande et l'Italie en tête, des pays qui agissent d'ailleurs sous l'œil avisé désormais d'un régulateur. Bref, plus question de faire n'importe quoi pourquoi, même si plusieurs spécialistes le concèdent, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.
Des associations de défense de l'environnement interpellent Nicolas Hulot sur le respect des économies d'eau. Elles ont écrit au ministre de la Transition écologique, car en cette période de sécheresse, alors que près de 200 arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire d'arroser son jardin ou de laver sa voiture, il y a quasiment autant de dérogations pour l'irrigation de certaines cultures comme le maïs. Malgré la sécheresse, les moissons battent leur plein en ce moment et bonne surprise, les récoltes de céréales s'annoncent correctes dans une petite moyenne, disons, pour le blé. Changer le regard sur l'obésité, on devrait peut-être commencer par les médecins. Ce sont les conclusions d'une étude américaine qui estime que le regard discriminant du corps médical pénalise la prise en charge des personnes en surpoids, qui sont 2 milliards sur la planète, c'est à lire sur franceinter.fr.
8h06, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, Emmanuel Macron pourrait affronter à la rentrée une polémique sur le statut de son épouse Brigitte.
Oui, le président de la République avait annoncé qu'il voulait sortir de l'hypocrisie et lui donner un statut officiel avec des missions et un budget. Mais en période de restrictions budgétaires, l'idée commence à faire des vagues, pétitions sur Internet, débats à l'Assemblée. Le statut de première dame à la française est déjà contesté, Thomas Giraudeau.
En 2 semaines, la pétition en ligne de Thierry-Paul Valette a recueilli près de 200 000 signatures. L'artiste et militant anticorruption s'insurge contre le projet en préparation à l'Élysée et pointe les contradictions du président.
On ne peut pas dire à un député, n'employez pas votre femme parce que c'est un parti pris, mais moi j'emploie ma femme et j'échappe à la règle. Ah si, il va dire non, j'emploie pas ma femme, je ne la rémunère pas. Mais c'est pas une question de rémunération, c'est une question de statut et c'est une question des budgets qui vont lui être attribués.
Une position entendue aussi à l'Assemblée il y a 10 jours en plein débat sur l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. Le député La France Insoumise, Hugo Bernaliklis, dépose un amendement pour qu'aucun moyen humain ou financier ne soit directement accordé à la Première Dame.
Ce que les Français et les Françaises souhaitent, ce n'est pas la transparence de ce rôle, c'est que ce rôle n'existe tout simplement pas.
Réponse du député de la majorité, Pacôme Rupin.
J'ai l'impression qu'historiquement, dans notre pays, beaucoup de nos concitoyens sont proches de la vision dont le président de la République aujourd'hui souhaite donner une place à la Première Dame, parce qu'évidemment, la place de la Première Dame a une importance symbolique. Plus que ça, elle a une action positive et donc elle a un rôle à partir de là.
L'amendement est rejeté, mais le débat devrait se poursuivre. Thierry-Paul Valette demande à être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron.
Le deuxième volet de la restauration de la confiance dans la vie publique devrait être adopté définitivement mercredi. Ce sera la fin de cette session parlementaire extraordinaire. Alors quel bilan ? Les textes annoncés ont bien été votés. On a beaucoup parlé des couacs dus à l'inexpérience des nouveaux élus de La République En Marche. Le fait marquant pour le politologue Olivier Roucan, professeur à l'Université Paris 2, c'est que le pouvoir parlementaire s'affaiblit par rapport à l'exécutif.
En permettant à des nouveaux venus, des néo d'obtenir des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale, La République En Marche ne permet pas tout à fait à l'Assemblée nationale d'avoir un rapport de force assez favorable vis-à-vis des administrations. Donc le doute, c'est est-ce que la technocratie, qui était déjà très puissante, ne va pas totalement écraser ici des députés qui, par rapport à l'administration, n'ont pas forcément les connaissances requises pour défendre les intérêts des parlementaires. Parlementaire par rapport à cette administration. Dans les discussions des textes de loi notamment, on voit bien que sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, l'Assemblée nationale a fini par céder. On voit bien que parfois il y a des divisions dans ce groupe assez pléthorique de députés. Est-ce que cela ne va pas profiter à l'exécutif et affaiblir encore davantage le Parlement ?
Propos recueillis par Frédéric Mettezo. La sénatrice de Seine-et-Marne, Nicole Bric, est morte hier à l'âge de 70 ans, un accident domestique. Travailleuse acharnée, spécialiste des questions économiques, elle était devenue brièvement ministre de l'écologie, puis surtout du commerce extérieur de François Hollande. Une cérémonie se tiendra cet après-midi à Aubervilliers, près de Paris, à la mémoire du couturier chinois de 49 ans, tué il y a un an lors d'un violent vol à l'arraché. Shaolin Zheng n'avait pas d'argent liquide sur lui, contrairement au cliché qui vaut aux Chinois d'être souvent ciblés. 3 jeunes sont renvoyés devant la justice des mineurs pour violence volontaire ayant entraîné la mort, avec la circonstance aggravante de racisme. La communauté chinoise s'était mobilisée pour dénoncer les agressions, avec quelques résultats, même si le sentiment d'insécurité est toujours très présent, Martin Delacoux.
Dans le quartier des Quatre Chemins, les habitants n'ont pas l'impression que les choses ont changé. La patronne d'un magasin de photos se fait est la confidente des clients agressés. Elle s'en fait l'écho, traduite par un de ses employés.
La dame dit qu'il y a aussi des clients qui venaient faire les photos pour les papiers parce que l'occasion d'idée ou le passoir sont volés dans la bus.
En train de faire ses emplettes, Manda vient ajouter son témoignage en pointant une rue toute proche du doigt.
Les Chinoises, elles me demandent est-ce qu'elles peuvent faire la route avec moi pour dépasser ce secteur-là. Parce qu'elles sont agressées, surtout là le soir, il y a toujours une agression.
Une réalité qui ne doit pas masquer une amélioration certaine, selon Olivier Wang, avocat, membre de l'Association des jeunes Chinois de France. Il est venu avec des chiffres sur les agressions à Aubervilliers.
Au premier trimestre 2017, à l'époque, c'était 59 cas. Au premier trimestre 2017, c'est une vingtaine de cas, voilà. Donc ça prouve qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été effectués.
De gros progrès, mais pour la communauté chinoise, ce n'est pas encore suffisant. Les associations demandent plus de caméras et plus de policiers dans les rues pour éviter les attaques racistes.
Le jeune homme de 18 ans sorti d'hôpital psychiatrique qui a brandi un couteau vers des soldats devant la tour Eiffel samedi soir en criant « Allah Akbar » est toujours en garde à vue. L'enquête a pris hier une dimension terroriste car il clame être en contact avec l'organisation État islamique en Syrie, ce qui reste à vérifier. Au Venezuela, une tentative de rébellion à Valencia, à 170 km à l'ouest de Caracas, a fait 2 morts parmi les militaires insurgés, qualifiés de terroristes par le président Nicolas Maduro, dont la dérive autoritaire a franchi un cap ce week-end avec la révocation de la procureure générale Luisa Ortega, ancienne chaviste devenue figure de l'opposition. Le Venezuela n'a plus beaucoup d'alliés sur la scène internationale, mais il y a Cuba qui détient peut-être les clés de la crise, Olivier Poujade.
Les ficelles politiques sont de plus en plus grosses, les actions contre ses opposants de plus en plus répressives. Le président Maduro tente de verrouiller le pouvoir en s'appuyant sur une assemblée constituante contestée et il continue aussi de s'isoler. Exclu du marché commun du Sud, le Mercosur, ce week-end, plus aucun pays de la région ne semble lui accorder de crédit, sauf bien sûr son allié historique, estime René Fregosi, directrice de recherche à l'Institut des hautes études d'Amérique latine.
Cuba tient en main l'État vénézuélien. C'est par lui que peut passer une solution de sortie de crise. C'est-à-dire qu'il faut que Cuba laisse le Venezuela libre de son destin. Et à ce moment-là, étant donné que 80% de la population est favorable à des élections libres et contre ce gouvernement, eh bien, on trouvera une issue démocratique.
L'armée vénézuélienne a été formée à l'école cubaine. La Havane est un des principaux bénéficiaires des réserves pétrolières de Caracas. Des liens forts qui, d'après le président colombien Juan Manuel Santos, font de Cuba le candidat naturel pour jouer les médiateurs entre Nicolas Maduro et ses opposants. Un médiateur partisan, mais a priori le seul à pouvoir stopper cette crise politique qui affame une grande partie des Vénézuéliens depuis maintenant plus de 3 ans.
Il est 8h13, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, les championnats du monde d'athlétisme à Londres, 6 Français se sont qualifiés pour les finales.
On suivra ce soir Garfield Darien sur le 110 mètres haies et au lancer du marteau, Alexandra Tavernier. La Savoyarde a connu un grand coup de blues après avoir décroché le bronze il y a 2 ans à Pékin. La victoire, elle le sait, se joue aussi dans la tête, Franck Ballanger.
On pourrait penser qu'une médaille mondiale lorsqu'on a 21 ans, c'est un cadeau tombé du ciel. Pour Alexandra Tavernier, le bronze remporté en Chine en 2015 aura plutôt été un fardeau.
Plus que ce que je pourrais l'avouer, ouais. Le fait d'arriver maintenant en compète avec une médaille de bronze, ben, j'avoue que j'avais un peu plus peur du regard des gens par rapport aux contre-performances ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un coup dur. Quand j'en discute maintenant avec les gens, je fais un travail psy et elle me dit « mais va voir les gens, demande-leur ce qu'ils en pensent ». Et quand je vois les gens, « mais c'est super, vous avancez super loin ». Mais non, il y a que 64, c'est nul. Mais non, les gens en fait, ils sont super contents de venir, de voir et de se dire « ah donc en fait, je me mettais la pression toute seule et enfin je me suis monté le mou pour rien, quoi ».
Alexandra Tavernier a donc identifié le mal, mais l'anécienne n'est pas certaine que tous ces problèmes soient résolus pour autant.
Si je dis non, c'est grave. Non, pas vraiment. Je pense que c'est des choses qui marquent et il va falloir du temps. Et après, je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans ma nature. Je fais attention à ce que les gens y pensent, à ce que j'ai toujours un peu peur du regard des autres.
Ce soir, Alexandra Tavernier va devoir se faire une raison. Ils seront 60 000 au stade olympique à la regarder lancer son marteau. À Londres, Franck Ballanger, France Inter.
Les Lyonnes, orange, sacrée championne d'Europe de football. Les Pays-Bas qui accueillaient l'Euro féminin l'ont remporté hier soir en battant le Danemark 4-2. Le tube de l'été n'est pas sur la la playlist de France Inter, mais Despacito est incontestablement dans l'actualité. Avec près de 3 milliards de vues sur YouTube, ce reggaeton en espagnol est l'air le plus écouté de tous les temps. Ses interprètes Luis Fonsi et Daddy Yankee sont originaires de Porto Rico, où le clip a été tourné et où la chanson fait revenir les touristes, Élise Delève. Pour ce clip, il fallait culture, sensualité, danse et couleur, selon son réalisateur. Il a donc choisi La Perla, quartier bariolé de San Juan, la capitale de Porto Rico. Pourtant, La Perla avait mauvaise réputation, raconte Leopoldo, guide de la ville depuis 25 ans.
Avant, les guides touristiques refusaient d'aller à La Perla car c'était dangereux, il y avait beaucoup de trafic de drogue. Aujourd'hui, beaucoup de touristes s'y promènent, prennent des photos, achètent des boissons, de la nourriture. Il y a même un restaurant qui a ouvert à La Perla.
Le clip, vu des milliards de fois, a changé l'histoire de ce petit quartier. Les gens ont repeint leurs maisons, ils ont nettoyé les rues et se préparent chaque jour comme pour aller à un mariage, sourit Leopoldo. Il avoue que le pays en avait vraiment besoin.
Sans aucun doute, la chanson a fait du bien à tout le monde. Porto Rico a des gros problèmes financiers en ce moment, le pays s'est déclaré en faillite. Le tourisme est le seul secteur qui rapporte et ça nous rend fiers.
La plus grande fierté des Portoricains, c'est à la fin de Despacito, quand le chanteur prononce le nom de leur petite île. Et désolé pour ceux qui nous reprocheront de leur avoir mis l'air dans la tête. En tout cas, si vous avez besoin de soulager vos oreilles, restez sur France Inter.
Non, mais c'est bien Despacito. Alors, les déhanchements, en plus, les déhanchements sur Despacito, c'est une véritable révolution. C'était le journal de Sarah Guibaudot, La Météo, avec Caroline Osterman. Caroline, un lundi au soleil avec une touche de gris au nord et au sud.
Voilà, vous dansez, ça tombe bien, il y a du soleil.
Parfait.
Place à une journée estivale sous un soleil radieux avec simplement un voile nuageux en bord de manche et sur les côtes aquitaines. Excepté ces quelques nuages élevés, le temps est radieux. Dans la soirée en revanche, des remontées nuageuses en provenance d'Espagne gagneront la France par le sud-ouest. Il s'agit des prémices d'un temps instable prévu demain, mais demain est un autre jour, Pierre.
Ah ben oui, absolument. Je suis troublé, oui, effectivement. Alors Caroline, les températures vont accompagner oui. Cette belle journée d'été.
C'est l'été, il va faire chaud, les températures remontent partout et surtout dans les pays de la Loire, en Bretagne et en Normandie. On attend 23 degrés à Quimper, 24 à Caen, 27 à Nantes. Il fera 25 degrés à Lille aujourd'hui, 28 à Paris, 29 à Bordeaux. Et on aura de l'air chaud, voire très chaud sur la façade est et en descendant dans le Midi et en Corse. Chaleur également pour le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 29 à 33 degrés, avec un souffle de vent dans le golfe du Lion.
Idéal pour danser sur Despacito. La circulation à 8h17. Élise Thibault, un accident sur le périphérique parisien.
Et oui, au sud de ce périphérique, quand vous roulez en intérieur, accident à hauteur de la porte d'Ivry qui entraîne actuellement 3 km de ralentissement. Attention aussi sur ce périphérique aux travaux à hauteur de la porte de la Villette. Ça ralentit hein, et ce sera comme ça toute la journée en intérieur comme en extérieur. En dehors de ces petits incidents, la circulation est très calme ce matin en région parisienne. C'est fluide hein, aussi si vous devez aller au travail ce matin à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Marseille.
Merci Élise.